Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville-Ouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, c'est jour de budget provincial. Le ministre des Finances, Éric Girard, présente son 5e budget. Qu'y a-t-il là-dedans? La suite dans quelques instants. Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, lui déclenche une enquête générale sur les agressions sexuelles alléguées dans les écoles. Durant ce temps, 1 milliard de plus sera donné pour les travaux de réfection du pont-tunnel. Et Donald Trump n'est toujours pas inculpé, mais la tension augmente à Manhattan.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors, jour de budget, ça tombe depuis là, 27 minutes de temps, très exactement à l'heure où on se parle, toi et moi. Ça déboule un peu partout, toutes ces nouvelles mesures du 5e budget présenté par le ministre Girard, son tout premier de ce nouveau mandat de la coalition Avenir Québec. Évidemment, la première mesure phare, là, le plus gros morceau du casse-tête, c'est cette baisse d'impôts qui avait été promise et qui sera mise évidemment de l'avant par le gouvernement qui sera rétroactive déjà cette année. On parle d'une diminution de 1% des impôts pour les deux premiers paliers d'opposition. Donc, on va payer jusqu'à le maximum le 814 $ de moins en impôts dès cette année. La moyenne se situe autour de 370 $ pour les Québécois qui seront touchés. 4,6 millions de Québécois qui vont être touchés par cette nouvelle mesure. Tout ça va coûter 1,7 milliard de dollars donc au budget qui sera donc de moins, un manque à gagner là, pour le nouveau budget d'Éric Girard. C'était promis, évidemment, la critique qui fuse tout de suite, c'est que les moins nantis de la société toucheront moins cette baisse d'impôts-là.
Mais évidemment, en fait, ceux qui payent pas d'impôts n'auront pas de baisse d'impôts, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est juste normal. Je veux dire, ceux qui payent pas d'impôts, d'abord, le but de tout le monde devrait être d'en payer un jour, à moins d'être une personne très âgée qui n'a pas eu la chance dans sa vie de gagner des revenus, mais les plus jeunes qui ne payent pas d'impôts devraient avoir comme but d'en payer d'ici quelques années, de se former, de faire quelque chose pour éventuellement en payer. Le but, c'est d'en payer des impôts parce qu'on travaille, parce qu'on contribue à la société. Mais les baisses d'impôts sont taxées. C'est les deux braquettes inférieures là, qui sont touchées. Donc, ouais. Vraiment la classe moyenne. Quand on dit les gens qui gagnent 100 000 et plus, mais les gens qui gagnent 100 000 et plus, faut comprendre, ils touchent le maximum, le 814. Là, tous ceux qui gagnent 98 000 et plus ramassent le maximum 814. Après ça, que tu gagnes 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, t'as toujours 814. La personne qui gagne 1 million a toujours son 814 de baisse d'impôt et pas une cent de plus. Donc, disons que tu maximises ta baisse d'impôt si t'es au sommet de la deuxième braquette, la 98 000.
Oui, c'est 90% des gens touchés par cette mesure qui gagnent en bas de 100 000 $, justement. Évidemment. Donc, on comprendra que c'est un 10% après ça qui sera affecté dans les autres mesures là qui sont ciblées dans tout ça. On parle évidemment du déficit du Québec. On prévoyait l'an dernier un déficit de 6,5 milliards de dollars. Bonne nouvelle, ça a été révisé à 5 milliards de dollars pour 2023-2024. On est rendu à 4 maintenant milliards de dollars de déficit. Donc
mais tu sais qu'il y a une partie du déficit moins gros, c'est con à dire, mais qui est dû à l'inflation. Là.
Absolument.
L'inflation fait rentrer...
C'est la hausse des impôts, la hausse des revenus liés à l'impôt. Puis l'autre hausse, c'est les revenus des entreprises du gouvernement comme Hydro-Québec hein, qui a eu cette année des bénéfices
cash,
record en raison de la hausse des prix de l'énergie, entre autres. Donc, c'est ce qui explique que le déficit sera moins gros que prévu. C'est encore le cap est gardé là, pour l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Mais surtout pour les prévisions économiques, là, on ne prévoit pas, du côté du ministre Girard, de récession. On parle d'un ralentissement de l'économie.
On prévoit 2 années bien tranquilles. Croissance économique pour cette année, 0,67 et 1,4 l'année prochaine. Donc, on comme si on a l'impression qu'on n'aura pas frappé une récession, on n'aura pas frappé un mur, là, mais qu'on va avoir 2 années de beaucoup plus lente croissance avant de revenir à une croissance plus normale, peut-être en 2025, on l'espère.
Exactement. Sinon, quand on parle budget du Québec, Mario, tu le sais bien, la porte du lion revient encore une fois à la santé. C'est le plan santé, entre autres, de Christian Dubé qui va le bonifier sur 5 ans de 5,6 milliards de dollars supplémentaires. C'est les services de première ligne, notamment, qui vont être améliorées. On va ouvrir 6 nouvelles cliniques de super infirmières cette année. On va atteindre un total de 23 cliniques du genre d'ici 5 ans. On parle de 361 millions de dollars aussi pour diminuer la liste d'attente des personnes en attente d'une chirurgie là, depuis plus d'un an également.
Ça, c'est de l'argent carrément pour payer les cliniques privées qui roulent à fond de train pour vider les listes des les opérations les plus simples, les cataractes, les genoux, les hanches, etc., pour essayer de vider ces listes d'attente-là.
Ouais, une liste où il y avait 20 649 personnes au 31 décembre dernier. On veut revenir au nombre pré-pandémique, c'est 3000 ce nombre-là, donc il va falloir une réduction assez notoire. Merci, d'ici 2024. En chiffres, en tout et partout, là, c'est vraiment 1 milliard de dollars de plus là, qui est investi dans le système de santé. On parle d'une hausse de 7,7%. Ça reste encore et toujours le 40% des dépenses du Québec en tout et partout. Peut-être, encore une fois, lorsqu'on parle de santé, avec les annonces de la dernière semaine, ou plutôt les déclarations de François Legault suite au drame d'Amcouy.
Ouais, il disait qu'il y aurait plus d'argent pour la santé mentale. Il y en a, mais c'est pas...
C'est moins d'argent que ce qui était censé être donné. Là, on va investir, entre autres, 27 millions de dollars de plus par année sur 5 ans pour répondre aux enjeux de santé mentale.
Mais ça, c'est... Je veux dire, dans l'ensemble, pour toutes les régions du Québec, tout ça, c'est peu d'argent.
Oui, on veut financer, entre autres, l'accès aux services, le financement des centres de crise, aider les nouveaux parents, etc., etc. Parce qu'il y a une liste aussi là d'attente en santé mentale. C'est 20 000 personnes qui étaient en attente au 31 décembre dernier. C'était en hausse de 4% sur 2021-2022. Donc, on veut venir aider, encore une fois, là, tout ça. Bonne nouvelle aussi pour les gens qui veulent qui ont des visées environnementalistes. On a le plan pour l'économie verte qui va être gonflé d'1,4 milliard supplémentaires. Donc, on va atteindre 9 milliards de dollars d'ici 5 ans dans ce plan pour une économie verte. C'est des sommes supplémentaires, entre autres, mais qui proviennent du marché du carbone, la taxe sur l'essence, entre autres, qui a réussi à ramasser, encore une fois, beaucoup d'argent, raison de l'inflation. On parle, encore une fois, de la cible de réduction de gaz à effet de serre. On vise 53 millions de tonnes pour 2030. On est à 63 millions de tonnes de CO2 en 2020. Donc, on a encore du chemin à faire. On espère que cet argent-là, cette injection supplémentaire de liquide, va permettre d'atteindre cet objectif-là plus rapidement. On parle aussi beaucoup, évidemment, de francisation. 213 millions de dollars sur 5 ans qui vont être consacrés au déploiement de Francisation Québec, qui va devenir le guichet d'accès unique pour tous les services de francisation. On va pouvoir bonifier, entre autres, les efforts de francisation dans les milieux de travail. Sinon, j'y vais en rafale. Il y a une hausse des frais de recyclage des pneus. C'est étrange comme mesure, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait vous toucher.
Fait que si vous changez vos 4 pneus, ça coûte quoi? 6 piastres de plus.
Mais là, ouais, parce que c'est 4,5 $, 4,50 par pneu au lieu de 3 $, là. Le 3 $ est en vigueur depuis
12. Si tu changeais tous tes pneus, ça coûtait 12 $, puis là, ça monte à 18 de frais de ton frais de recyclage des pneus.
Ouais, puis ça, c'était en vigueur depuis 1999, donc ça change.
Ça n'avait jamais été indexé,
ça n'avait jamais été indexé. Puis il va y avoir également, là, une distinction entre les pneus de taille régulière et les pneus de camion, par exemple, qui ont des grandes jambes, là, qui dépassent un certain nombre de pouces. Eux, ça va être 6 $ par pneu, la taxe qui va être augmentée. Donc, c'est indexé non seulement là, de manière globale, mais aussi par la taille de vos pneus.
Je voyais qu'il y a un programme, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là, les projets pédagogiques particuliers, les jeunes qui sont inscrits, par exemple, de milieux défavorisés dans des programmes sport-études, etc. Parce que des fois, les parents ont de la misère à payer la... Tu sais, des parents disent, mon jeune, j'aimerais qu'il aille en sport-études, mais je peux pas payer le coût là, du programme.
Ouais, exactement. Et les parents de ces élèves là, on parle, oui, des programmes de sport-études. Il y a d'autres projets pédagogiques. Là.
C'est un hors-études ou
exact,
etc.
Des programmes spéciaux. Puis là, on va bénéficier de 100 $ supplémentaires. Ça va atteindre 300 $ par année en tout et partout comme aide. Mais on veut surtout là, que toutes les écoles secondaires publiques offrent ce genre de programme-là éventuellement d'ici 5 ans. On va donner donc 168 millions de $ supplémentaires pour que ce programme-là soit étendu donc dans toutes les écoles. Comme ça, on revient à l'économie, Mario. Je sais que c'est ce qui t'intéresse. Quand on parle de la dette, on va puiser 5 milliards de dollars dans le Fonds des générations pour rembourser une partie de la dette du Québec. 2,5 milliards cette année, 2,5 encore en 2024-2025.
Et tu sais pourquoi?
Ben oui, pour réduire la dette, les taux d'intérêt sur la dette.
Parce que quand les taux d'intérêt étaient à 2%, même le gouvernement empruntait du 1,5%, là. Là, on disait, ça vaut pas la peine de rembourser la dette. On est mieux de laisser l'argent des fonds. On donnait l'argent du Fonds des générations à la Caisse de dépôt. qu'on disait, on est, ben comme quelqu'un qui payait pas son hypothèque, là, qui disait, je suis mieux de laisser mon argent fructuer,
ouais, fructifier, avoir un bon rendement.
Et avoir un bon rendement, fructifier dans mes REER ou peu importe. Que, mais là, quand le gouvernement aura de la dette qui devient échue et renouvelle sa dette, c'est plus au même taux. Et là, ça devient intéressant de faire des remboursements.
Oui, puis un peu comme n'importe quel particulier, on veut être capable d'économiser là, ce qu'on rembourse à la dette habituellement. Là, parce que pour 2023-2024, c'est 9,5 milliards de dollars d'intérêt sur la dette. L'an dernier, on était à 10,1, donc c'est réduit un tout petit peu. Grâce à ça, on économise 801 millions de dollars sur 5 ans, donc de réduction de paiement à cette dette-là. Par comparaison, tu parlais des taux auxquels on emprunte. En 2022-2023, le taux d'intérêt, c'est 3,8%. L'année précédente, c'était 1,9%. Donc, ça a véritablement augmenté. Et surtout que le rendement de la caisse de dépôt et placement est à moins 7,9% ouais. pour 2022. Donc, on comprend que pour l'instant, c'est mieux d'injecter directement de l'argent pour tenter de réduire cette dette-là pour payer moins cher sur nos intérêts. Donc, en rafale, comme je le disais, toujours d'autres mesures. On parle, entre autres, de bonification d'aide au logement. Aussi, là, une hausse pour ceux qui bénéficient du crédit d'impôt pour la solidarité qui va aller entre 78 et 125 $ pour pallier, entre autres, à la hausse des loyers. Donc, on va pouvoir recevoir plus d'argent pour tout ça. Puis, pour favoriser l'épargne d'un plus grand nombre de Québécois, on va restreindre l'accès au fonds de solidarité FTQ aux contribuables dont le revenu imposable est de 112 655 $ C'est assez arbitraire et moins. Donc, c'est une mesure qui permettrait à 60 000 personnes de plus d'avoir accès à ce fonds-là sans que le gouvernement ait injecté plus de sommes dans tout ça. Mario, toi, qu'est-ce que tu retiens là, à date de ces rafales? On continue d'analyser évidemment ben, toutes les mesures.
Ce que je retiens du budget, le gouvernement Legault est quand même devenu avec les années assez dépensé. Il n'y a pas de véritable plan de réduction des dépenses. On sait c'est impopulaire de faire ça, mais donc on baisse les impôts. Oui, on prend un peu l'argent d'argent qui aurait pu être versé dans le fonds des générations, mais c'est aussi, à mon avis, qu'on retarde d'un an la baisse d'impôts, là. On retarde peut-être d'un an le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, il va être en 2027-28. Ce que je vois des chiffres, on aurait peut-être été capable d'y revenir en 26-27. Je m'en réjouis néanmoins. C'est juste que moi, c'est la première fois de mon vivant que je vis une baisse d'impôts, là. Fait que je veux dire, tu me demandes la nouvelle.
Et moi donc, dans ce
cas-ci.
Oui, et
toi donc. Non, mais la nouvelle dans le budget, c'est ça. Pour le reste, c'est pas, tu sais, il n'y a pas de révolution. Même ce qui a l'air gros, on dit 5,6 milliards des nouvelles cliniques en santé, mais c'est déjà le plan Dubé. Puis ça coûte tellement cher, la santé, que ça a l'air fou de dire ça, mais 5,6 milliards. Tu vois-tu? 5,6 milliards en 5 ans, là, pour les cliniques de la santé.
Ouais.
Quand on dit que la contribution fédérale, tu sais, le nouveau transfert de Justin Trudeau à la santé, c'est pas grand-chose, ça paye même pas ça. C'est à peu près 1 milliard par année. Ça paye même pas le petit projet de nouvelle clinique de super infirmières que le gouvernement annonce. Je parle pas de payer l'ensemble des hôpitaux. Ça paye même pas la petite nouveauté qui est quand même.
Une nouveauté bien, à 5,6 milliards
oui,
quand
mais
même.
C'est quand même pas si énorme. C'est 23 cliniques de super infirmières. Alors, la contribution fédérale paye même pas ça. Fait qu'oublie de payer pour refinancer l'ensemble du système de santé, des hôpitaux, du salaire des médecins, etc., etc. Là, on est loin de ça.
Toujours à l'Assemblée nationale, en marge du budget. Autre chose qu'on surveillait, c'est une sortie du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui a annoncé déclencher une enquête de portée générale. Donc, dans la foulée des multiples dénonciations, d'allégations, d'inconduites, de nature sexuelle ou de comportement inadéquat dans les écoles. Il a fait l'annonce de ça en réponse à une question de la députée solidaire Ruba Gazal. Il y avait un rassemblement de parents d'élèves de Cowansville qui dénonçaient l'inaction de l'école secondaire Massé-Vanier, entre autres, face à des allégations d'harcèlement, d'agression sexuelle. Et là, M. Drainville a parlé.
Ville, ça a l'air d'être un élève là, au masculin qui cause pas mal de problèmes. Toutes les plaintes ont l'air à viser le même élève. On dit que l'école fait rien.
Oui, et là, on veut évidemment prendre action dans tout ça, monsieur.
Mais par contre, c'est pas ce dossier-là qui a déclenché, parce que le ministre Drainville est arrivé à midi à l'Assemblée nationale avec toutes ses affaires. Alors, l'histoire de Cowansville est apparue hier, puis il est arrivé aujourd'hui avec toutes ses affaires prêtes. Tu peux pas monter une enquête comme celle-là en 24 heures.
C'est, ouais.
C'était faut conclure que c'est un hasard que ça arrive, son annonce le jour. D'ailleurs, il y a eu une autre aujourd'hui, une autre arrestation
absolument.
Dans une école à Saint-Stanislas.
Ouais, absolument, Marion. On a toutes sortes d'histoires qui continuent d'émerger comme ça. Et c'est pour ça qu'il parle d'une enquête de portée générale. Il a dit aujourd'hui, bien sûr, que ça pourrait inclure les affaires de Cowansville. Dans les dernières heures, c'est un ancien du collège privé de Montréal qui est arrêté, lui, avec des crimes sexuels qui auraient été commis envers des élèves. Donc, une histoire, encore une fois, d'arrestation. Puis on a parlé, évidemment, dans les derniers jours de toutes sortes d'autres cas. Il y a quelques semaines, là, le journal avait révélé qu'un enseignant également qui avait mis une élève de 16 ans enceinte à la fin des années 90. Donc, on veut, dans cette enquête-là, prendre toutes les situations qui impliquent des comportements qui peuvent faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. Donc, on verra exactement tout ce que ça englobera éventuellement. Tout ça, mais c'est une enquête donc qui est officiellement désormais déclenchée.
Mais je pense que ce qui a dérangé beaucoup de gens, et probablement le ministre, moi, c'est tous des cas terribles, là, d'abus envers des élèves, de gens qui étaient en autorité, mais quand même, celle, et elle fait partie de la liste, là, celle dans le coin de Montréal-Nord, dans le nord-est de Montréal.
Oui, la femme.
La femme qui est une éducatrice spécialisée finit par dire qu'elle est en couple avec une élève de 13 ans, une élève adolescente de 13 ans.
Sur plusieurs mois, voire des années.
Au point où même... Bon, puis là, il y a plein de questions qui concernent pas le ministre de l'Éducation. Il semble que la mère avait signé une autorisation de voyage pour qu'ils puissent aller ensemble en couple à Cuba. Tu dis, attends un peu, là. Mais bon, il reste que dans l'école, collègues enseignants, cadres de l'école, il y a des gens qui auraient vu des choses puis qui ont comme laissé passer. Et je peux comprendre que le ministre de l'Éducation se dit, OK, mais dans mon réseau d'éducation, comment on réagit quand on voit des aberrations? Comment on réagit? Sur quoi on passe l'éponge? Sur quoi on ferme les yeux? Et donc là, probablement que ça va mener à des nouveaux codes. Tu sais, les écoles ont leur code de conduite, mais probablement qu'il y aura un code de conduite pour l'ensemble du réseau, pour l'ensemble des écoles, en matière de gestion des cas d'agression sexuelle.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Dans le milieu politique, on a réagi aujourd'hui à cette vidéo devenue virale d'une violente agression survenue lundi dans le métro aux abords de la station Baudry à Montréal. On voit un individu dans cette vidéo qui, comme je le dis, là, est devenu s'est répandu comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Un homme, semble-t-il, qui ont échangé quelques mots un instant avant et qui, en se levant, se fait frapper violemment par derrière. Plusieurs coups de poing tombent au sol et on l'entend même crier en direction des passants autour, des autres passagers qui le filment sans réagir. Faites de quoi?
C'est pas ça qu'il faut faire? À l'époque des réseaux sociaux, on filme?
On filme, puis on attend.
On laisse aller.
On les bras croisés. On laisse les agressions se poursuivre. C'est sûr, c'est un geste qui semble un peu aberrant. Par la suite, la vidéo là, devient complètement floue alors qu'on comprend que la personne qui filme
s'en mêle. À la défense, le type qui filmait, c'est lui finalement qui intervient.
Oui, et là, la victime est un homme de 45 ans qui a subi des voies de fait, blessures, dont une blessure à la cheville qui est assez apparente dans la vidéo en question. Et là, il n'y a pas d'arrestation pour le moment. On recherche un homme dans la vingtaine. Mais vraiment, c'est un exemple flagrant là, d'une tendance peut-être qui est observée, dénoncée par l'opposition
à
Montréal.
Quand tu parles de l'opposition, c'est qu'il y a vraiment une attaque sur la qualité de la sécurité, de l'encadrement de la sécurité dans le métro de Montréal.
Oui, semble-t-il qu'il y aurait une baisse de la qualité de l'encadrement, que les constables spéciaux seraient moins nombreux, moins présents. Bref, la Société de transport de Montréal, la STML, a dit qu'ils vont collaborer avec l'enquête pleinement, qui veulent se faire rassurant également, mais c'est certain que ça fait toujours beaucoup de tabac.
Non, sauf que si on veut être un tant soit peu sérieux et dire qu'on veut plus de gens prennent le transport en commun, puis on veut que la sécurité, t'as la fiabilité, puis je sais que c'est un de tes dada, tu t'intéresses, c'est assez à la fiabilité du métro, tu
absolument.
Fais des enquêtes toi-même là-dessus, auquel on additionne la sécurité. Mais si t'as un transport qui est pas fiable, puis à l'intérieur duquel, puis là... une personne a été agressée, mais là, on pourrait parler des femmes seules, etc. C'est pas rassurant. C'est pas de quoi encourager le transport en commun, là.
À Ottawa, maintenant, les libéraux ont fini par plier sous la pression. Ils enverront devant le comité la chef de cabinet, Cathy Telford, qui était, là, elle, demandée à grand cri par l'opposition depuis un certain moment. Tout ça pour répondre, évidemment, aux questions sur l'ingérence étrangère de la Chine dans les élections de 2019 et 2021. Et coup de théâtre en même temps. on a révélé finalement le mandat du rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère, David Johnston, aujourd'hui. Il devra décider d'ici le 23 mai prochain s'il y a enquête publique qui pourra être imposée ou pas auprès du cabinet de Justin Trudeau. C'est drôle parce que ça faisait quand même un certain moment que les libéraux faisaient perdre du temps pour éviter, là, ça faisait plus de 20 heures non consécutives qu'on utilisait des tactiques dilatoires, entre autres, pour bloquer la comparution de cette collaboratrice très proche du premier ministre.
Mais c'est-à-dire que c'est une semaine à avoir dans l'actualité tes efforts pour empêcher qu'elle témoigne. Donc, disant d'une certaine façon au public, t'as peur de ce qu'elle pourrait dire ou que tu veux pas sortir la vérité ou peu importe, et tu te fais accuser de ça.
Et finalement,
tu cèdes, là. Ben, je veux dire, à ce compte-là, il aurait été mieux de dire oui, je sais pas, là. Il était mieux de dire oui au début, parce que là, il aurait évité une semaine. Il aurait démontré. Parce que le résultat va être le même. Le résultat, ça va être que la directrice de cabinet, la chef de cabinet, va devoir témoigner. Sauf que là, c'est une semaine perdue à avoir dans tous les médias le message martelé que les libéraux essayent de l'empêcher de témoigner. Il me semble qu'ils ramassent le pire des deux mondes, là.
Tout savoir en 24 minutes.
Québec a annoncé hier soir, tard, une veille de budget, Mario, dans un petit communiqué vers 18h40 lundi, que le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine et les travaux de réfection qui s'accompagnent seront dépassés $1 milliard de dépassement de coûts pour s'élever à $2.5 milliards finalement. Hausse de coûts donc de 75% qui a été dévoilée comme ça tout bonnement. On garde les mêmes objectifs là en durée de temps des travaux, mais c'est la troisième fois en moins de 4 ans que les coûts annoncés explosent.
Mais là, c'est comme dans les explications qu'on nous fournit, on nous dit que dans les versions initiales, on n'avait pas nécessairement, par exemple, tenu compte complètement de, par exemple, tous les frais de surveillance, de redéploiement du trafic, parce que pendant que tu fais les travaux, je veux dire, il n'y a pas juste le coût là, des travaux eux-mêmes, il y a tout le coût, les frais environnants pour essayer de maintenir la circulation, les navettes, etc.
Bon, il appelle ça de la mitigation de trafic dans caractères.
Je comprends mal qu'on n'avait pas prévu c'est au moment des travaux qu'on a pensé à ça. Dans les planifications de couple d'années avant, on n'avait pas imaginé ça, là.
Ouais, exact. Et on dit qu'en se rendant dans le tunnel en tant que tel, il semble-t-il que c'était plus dégradé qu'on pensait. Donc, dans les premières analyses, peut-être qu'on a enlevé le peu de petits carrelages qui restaient dans le tunnel, puis qu'on s'est rendu compte que la structure était beaucoup plus dégradée que l'on pensait. Mais ça fait quand même plusieurs explosions de coûts l'une à la suite de l'autre. On avait déjà dit, là, en août 2022, du côté du ministre des Transports qui était là à l'époque, François Bonnardel, que le chiffre de 1,4 milliard tenait pas la route, qu'on allait devoir le réévaluer. Et donc, c'est un autre dépassement de coûts qui vient s'ajouter. Et pour certains experts, dont Pierre Barriot, qui est expert en planification des transports, qui était à l'Université de Montréal, qui était là ce matin avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy, mais lui, il dit, tant qu'à avoir des dépassements de coûts comme ça, puis surtout, c'est peut-être pas le dernier non plus, est-ce qu'on serait pas mieux d'arrêter cela, puis de commencer à penser tout de suite à un nouveau mode de transportation, là, un autre pont, un autre tunnel, quelque chose d'autre. Parce que si on en croit le ministère des Transports en ce moment, la structure, une fois réparée, va être bon pour 40 ans encore, sans autre intervention majeure. Mais est-ce que ce n'est pas trop cher payé pour une solution qui est temporaire de 40 ans? Si on fait une comparaison, là, je rappelle, on est rendu à 2,5 milliards de dollars de fonds publics. Le pont Samuel de Champlain, ça a coûté 4,2 milliards. Puis ça inclut à l'intérieur du prix le démantèlement de l'ancienne structure au grand complet. Donc, est-ce qu'on serait pas mieux?
Par contre, si on faisait, c'est fou, ça fait pas longtemps, ça fait quoi, même pas 10 ans, mais si on faisait le pont Champlain avec l'inflation aujourd'hui, probablement qu'il coûterait plus 4,2, 4,5, il coûterait probablement 6, 7. Là. Ça a évolué vite, les prix.
Le monde.
Bien qu'il l'avait lui-même annoncé sur son média social True Social, Donald Trump n'a pas été arrêté. Le 45e président des États-Unis n'est toujours pas là devant la justice.
Mais j'ai-tu vu qu'il y avait des rumeurs pour peut-être demain?
Il y a des rumeurs. Les médias américains sont rendus à parler de demain, voire de la semaine prochaine. Mais on attend toujours la possible inculpation qui deviendrait historique de l'ancien président, parce qu'il n'y a jamais eu là, de président américain en exercice ou ayant quitté même la Maison-Blanche à être inculpé inculpé. Donc, ce serait évidemment une grande, grande affaire. Déjà, du côté de M. Trump, on avait évoqué durant la fin de semaine que ce serait aujourd'hui demander les gens, ses partisans qui sont très virulents, en règle générale, à venir manifester à Manhattan. Pour l'instant, il y avait une trentaine de jeunes Trumpistes qui étaient là hier soir, tard. Beaucoup plus de forces de l'ordre qui étaient présentes que de manifestants à ce moment-ci. Mais bref, autour du palais de justice à Manhattan, on continue d'empiler des structures métalliques, des clôtures, des forces de l'ordre. On se prépare à quelque chose. Chose certaine, c'est inculpation. C'est pas aujourd'hui. Ça s'en vient bientôt.
Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.